Ma chambre à la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume.
CFM. CFM. CFM.
Jean Rigal, une mémoire. 15e. Une émission présentée par Joël Causse avec la participation de Roger Lajoie-Mazin. Bonjour Jean Rigal.
Bonjour Roger Lajoie-Mazin. Bonjour.
Lors de la précédente émission, nous avions commencé à aborder les candidatures pour les élections législatives de 1993, les élections régionales et cantonales de 92 avaient été difficiles pour la majorité présidentielle. Jean Rigal, vous avez perdu votre siège à l'Assemblée départementale au profit de Serge Roch, mais vous aviez gardé celui du Conseil régional. Et où vous vous trouviez dans l'opposition. Vous aviez décidé de ne pas vous représenter à l'Assemblée nationale, mais si vous avez tardé à annoncer publiquement votre décision, votre candidat naturel, vous l'avez annoncé lors de la dernière émission, était Jean-Pierre Pouzoulet. Mais je crois que sa candidature n'étant pas possible, et nous allons peut-être nous l'expliquer, vous allez peut-être nous l'expliquer un peu plus précisément.
Oui, bonjour Joël, bonjour Roger, bonjour à tous les auditeurs de CFM. Effectivement, je confirme tout ce que vient de rappeler Joël. J'ajoute que Jean-Pierre Pouzoulet était le candidat naturel, non seulement de Jean Rigal, mais de l'ensemble du mouvement des radicaux de gauche, puisqu'il appartenait à ce mouvement depuis 1975 ou 1976. C'est un garçon qui a une formation de professeur d'économie et qui, en 1975, était devenu l'assistant de Robert Fabre avant de devenir le mien et puis plus tard l'attaché parlementaire de Rocard à diverses reprises à l'agriculture dès 1983 et puis à Matignon en 1988. Donc c'est quelqu'un qui avait à la fois de la compétence et beaucoup d'expérience et qui connaissait parfaitement, en particulier, le fonctionnement de la mécanique parlementaire et gouvernementale. Donc c'était notre candidat naturel. Mon idée était en effet de ne pas me représenter aux élections parce que j'étais déçu. J'étais déçu de soutenir la politique d'un gouvernement qui ne faisait pas du tout ce pourquoi j'estimais avoir été élu. Et j'avais pris ma décision, mais à mon fort intérieur. Car j'ai rappelé la dernière fois que lorsqu'un sortant décide de s'effacer, il faut qu'il se garde de le clamer. Des mois, voire plus d'un an à l'avance.
Oui, il faut qu'il continue son mandat jusqu'au bout.
Car sinon, ça crée des appels d'air, et les appels d'air ce ne sont pas forcément des appels d'air purs. Et c'est tout à fait le cas. Donc, on en était resté au printemps 92, au mois de mai, fin avril, début mai, et c'est là que, un jour, en allant rencontrer le directeur de cabinet de Jean-Michel Baillet, qui était secrétaire d'État au tourisme, avant de passer aux collectivités territoriales auprès du ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, j'ai rencontré le chef de cabinet adjoint de Jean-Michel Baillet, qui était Jean-Marc Sabaté, que j'avais vu dans certains congrès du MRG, mais que je ne connaissais pas plus que cela. Et comme j'attendais mon rendez-vous, Jean-Marc Sabaté m'a expliqué qu'il était originaire par la famille de son père de Villefranche-Rouergue, que la famille de son père possédait toujours une maison sur la route basse de Farou, au lieu dit le Mas de Tézit, qui avait été à l'époque une guinguette tenue par sa grand-mère, laquelle s'appelait Madame Vergne, qu'il était attaché à Villefranche et qu'il aimerait bien venir à Villefranche pour une aventure, entre guillemets, électorale avec moi, pour une élection municipale. Et je dis, mais pourquoi pas ? Très très volontiers, on peut toujours accueillir des gens de talent, surtout s'ils ont des racines locales. Et c'est là que j'ai ajouté à son intention, mais avant les municipales de 95, auxquelles je s'ignore totalement aujourd'hui si je me représenterai, il y aura un siège à pourvoir qui sera celui de député. Et car là, j'ai bien l'intention de ne pas me représenter, et c'est peut-être une aventure qui est beaucoup plus proche qu'une aventure municipale en 1995. Voilà comment les choses se sont engagées.
Donc vous avez encouragé Jean-Marc Sabaté à venir dans la ville de
Franche-Comté. Oui, je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord pour sa venue, non seulement pour une municipale, mais je lui ai demandé de penser que, un an après notre rencontre, même pas, allait avoir lieu une législative à laquelle je ne serais pas plus candidat.
Oui, donc il est venu assez rapidement, puisque déjà dans l'été 92, il était...
Alors,
voilà, allez-y.
Alors, il est venu assez rapidement. Il a dit, oh, il faut que je réfléchisse, je lui ai dit, bien entendu. Et il a réfléchi assez rapidement, puisque... Dès le début du mois de juillet, il s'est inscrit dans la fédération de l'Aveyron du mouvement des radicaux de gauche. Et là, il a commis une erreur qui m'a choqué un peu, mais bon, chacun a son tempérament et son caractère. Il a affiché ses ambitions. Non pas en disant « je vais être candidat aux législatives l'an prochain », non, c'est pas ça. Prétendant exiger que lui soit donnée la présidence de la fédération départementale du MRG, pratiquement dès son arrivée. Cette information, je l'ai eue, moi, le 11 juillet 1992. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ça m'a marqué. Et je me suis dit que c'était maladroit. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça n'allait pas manquer de froisser tel président de fédération départementale en place et qui n'avait aucune raison de se retirer. Deuxièmement, que, et ça c'était de la part de Jean-Marc, une méconnaissance des caractéristiques du MRG, le MRG n'a jamais été un parti d'adhérents, un grand parti d'adhérents, même s'il en a. Mais par contre, c'est un grand parti de réseau, de sympathie, d'amitié, de contact. Et en faisant cela, il se privait presque par avance, ou en tout cas, il compromettait ses relations avec ces fameux réseaux. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai fait remarquer. Et ce que je lui ai expliqué a probablement fini par le convaincre, puisque en définitive, il n'a pas brigué le président de la Fédération du département, qui n'était d'ailleurs pas à pourvoir, ni plus particulièrement à ce moment-là. Mais un certain mal était fait.
Oui, donc, une petite ignorance. Roger Lajoie-Mazin, vous aviez quelque chose à confirmer ou à infirmer ?
Non, je n'étais pas au MRG à ce moment-là, mais bon, j'ai quand même suivi la campagne en tant que journaliste, hein, donc je confirme ce que dit Jean Rigal. Je ne connaissais pas le fin mot du début de la mésaventure Jean-Paul Sabatier, à savoir cette mise espérée sur la présidence du MRG. Je sais que par la suite, il a été président délégué ou vice-président, je ne sais pas le titre qu'on a donné à sa fonction.
Il était donc secrétaire national
rapidement du MRG. Au niveau départemental, il est devenu vice-président ou président délégué, enfin ce qui revient à peu près au même. Hein. Voilà. Étant donné que le président départemental était toujours Louis Laurent.
Donc voilà, après le candidat naturel, vient le candidat suscité, d'une certaine façon, par vous.
Et pas suscité par moi, mais disons que j'ai pensé qu'il y avait une opportunité à saisir.
Bien, on va peut-être écouter La Fontaine.
Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat l'a des soins d'ici-bas dans un fromage de Hollande se retira, loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage ? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu. Certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister ? Que peut-il faire ? Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci ? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable ? Un moine ? Non, mais un derviche. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. C'est fin, La Fontaine. C'est fin, c'est ça, et c'est tout. C'est final, La Fontaine.
Voilà, c'est le commentaire de Lucchini. Bon, on n'en prendra pas le son pour cette émission. Enfin, c'est dit. Voilà, donc le candidat, le futur candidat est arrivé, mais c'est pas fini. La campagne se lance à peine, puisqu'on est déjà à fin 92. Vous allez annoncer votre non-représentation à quel moment vers la...
Alors, j'ai annoncé ma non-représentation en janvier 1993.
Janvier, oui.
J'estime que c'était bien assez tôt. Entre-temps, j'ai d'ailleurs reçu de nombreuses pressions pour tenter de me faire représenter, aussi bien de la part des amis du MRG de l'Aveyron que de la direction nationale et des personnalités nationales du MRG. J'ai même été invité le 4 novembre 1992 à la rue de Solferino par Laurent Fabius, qui à l'époque était le premier secrétaire du PS et qui m'a supplié de me représenter. Et je lui ai dit non, moi ma décision est prise, je ne l'annoncerai pas encore, mais je ne serai pas candidat. Et effectivement, j'ai annoncé ma décision dès le début du mois de janvier 1993. J'ai parlé tout à l'heure d'appel d'air, et pas forcément d'air pur. Et effectivement, il s'est produit un appel d'air qui pour moi était de l'air vicié, hein. Monsieur Jean-Michel Bouissier, apparatchik socialiste villefranchois bien connu, et qui est d'ailleurs toujours en activité aujourd'hui, a aussitôt estimé que pour lui le jour de gloire était arrivé. Et autant il n'aurait certainement pas bougé si je m'étais représenté, puisqu'il y avait un accord entre le MRG et le PS, accord qui était destiné à couvrir tous les cas de figure, et pas seulement un renouvellement de ma candidature. L'accord était valable en tous les cas. Monsieur Jean-Michel Bouissier s'est senti pousser des ailes et a dit que, puisque je n'étais pas candidat, il n'y avait aucune raison que lui ne le soit pas pour le Parti Socialiste. Il s'est beaucoup agité, à tel point qu'il a réussi à obtenir, au sein des sections socialistes de la deuxième circonscription de l'Aveyron, un vote des militants pour savoir s'ils devaient ou pas se présenter. Il y a eu des votes, il y en a eu en sa faveur, il y en a eu un peu plus, mais pas beaucoup plus, pour lui demander de ne pas se présenter et de respecter l'accord. Donc il est resté chez lui, mais à une faible majorité, hein. Et donc, ça prouvait qu'il y avait un état d'esprit derrière lui. Et ça s'est d'ailleurs traduit au moment du scrutin, puisque le candidat de droite, Serge Roque, a été élu au premier tour, avec un écart, je crois que c'était de 320 voix par rapport à la majorité absolue.
Oui, 50,8% voilà. Il a eu.
Et 320 voix par rapport à la majorité absolue, et que... On a pu observer, lorsqu'on s'est analysé un scrutin le lendemain, qu'il y avait eu 9,5% de bulletins blancs et nuls dans cette circonscription, notamment dans les bureaux de vote traditionnellement favorables et légitimement favorables au Parti Socialiste, comme de Casseville, comme au Cap de Nagare et quelques autres, alors qu'habituellement, ce pourcentage se situe entre 3,5% et 4,5%. Ce qui veut dire qu'il y avait un rabiot, si on peut dire, un bonus de plus de 5% de bulletins blancs et nuls qui émanaient d'électeurs du Parti Socialiste qui souhaitaient plutôt écarter un jeune candidat MRG que barrer la route à un candidat très marqué et de plus en plus marqué à droite. C'est une des choses que j'ai retenues.
Oui, donc et là, il faut rappeler oui, que Serge Roque a été élu au premier tour. Roger Lajoie-Mazin, vous étiez suppléant de Jean-Marc Sabaté.
Oui, ce qui pourrait demander une explication également, oui. Parce que le suppléant de Jean-Marc Sabaté eût pu être un socialiste, ce qui n'était pas le cas. Et je n'étais ni socialiste ni radical de gauche à cette époque-là. Donc ça a pu également avoir une certaine influence dans la campagne électorale.
Oui, vous avez un souvenir précis de cette campagne, une anecdote à nous...
Pas d'anecdote, non, mais bon, je confirme ce que dit Jean Rigal par rapport à la, à la tenue de certains militants socialistes qui ont été très durs par rapport à notre campagne à nous. Je pense à Braqueville, je pense à Aubin, je pense à enfin, les gros secteurs socialistes du bassin, les grosses situations dont on n'est pas favorable.
Voilà, mais bon, on était dans le contexte d'une grande avancée de l'opposition au président de la République, hein, puisqu'il y a eu quand même de nombreuses victoires du parti de Serge Roque qui a obtenu la majorité.
Je crois qu'il faut souligner que dans cette campagne, Jean-Marc Sabaté, moi que c'est Romain, mais Jean-Marc Sabaté a dû soutenir le bilan social qui n'était pas très bon de la gauche. Ça a été très difficile donc à soutenir ce bilan qui n'était pas favorable.
Ce que moi je n'aurais pas fait si j'avais été candidat. Hein. J'aurais dit quelles étaient mes positions. Bon, j'aurais été aussi critiquable d'avoir voté des choses. Hein. Mais disons que le choix du suppléant et le choix de la ligne à présenter dans la campagne, Jean-Marc Sabaté en a fait son affaire, c'était tout à fait normal. Après avoir été désigné de manière tout à fait démocratique par les instances du départemental du MRG.
Via, via, vieni via tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Paolo Conte. Donc j'aurais aimé, mais on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais j'aurais aimé qu'on parle un petit peu d'autres élections qui ne sont pas locales, à savoir les européennes, puisque c'est dans la foulée, donc en 94, juin 94. Et là, pour cette fois-ci, c'est, d'ailleurs ça sera la seule fois dans l'histoire des élections européennes, le parti radical avec Énergie radicale, à la tête de laquelle il y avait Bernard Tapie, a fait quelque chose comme 12% des voix. Donc, je voudrais que vous me disiez un mot, parce que vous avez accueilli Bernard Tapie à Villefranche.
Pour rebondir sur votre conclusion du chapitre précédent, en effet, les élections législatives 93 ont été les plus catastrophiques que la gauche ait jamais connues. Toutes tendances confondues, elle n'atteignait pas 90 députés sur 577. Et Martin Malvy s'est retrouvé socialiste, un groupe socialiste qui, à l'époque, pesait 68 personnes. Vous voyez ? Donc, ensuite, il y avait une vingtaine de communistes, de radicaux de gauche ou d'apparentés de gauche, mais il n'y avait pas en tout 90 députés de gauche. Donc c'était vraiment le désastre. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a nuit à la majorité de droite d'être beaucoup trop nombreuse. Parce que quand on a une représentation trop nombreuse, on est obligé de s'inventer une opposition interne, et ça, c'est pas facile, il faut être très fort en politique pour être capable de le faire.
Oui, il y avait les amis de 30 ans qui se sont mis...
Voilà, un peu plus tard. Ouais. Bon, alors maintenant, les européennes de 94. Effectivement, Bernard Tapie venait d'adhérer au Mouvement des radicaux de gauche, je l'ai rappelé, en février 93. donc peu avant les législatives. Et il avait auparavant déjà été ministre
de la ville,
des gouvernements désignés par François Mitterrand.
Pendant peu de temps. Hein.
Pendant peu de temps, puisqu'il y avait eu une affaire qui était sortie. Et le MRG a mis en place une liste pour les élections européennes de 1994. Très fortement encouragé d'ailleurs par le président Mitterrand. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste avait désigné comme tête de liste aux européennes Michel Rocard. Et on sait très bien que Michel Rocard et François Mitterrand, c'était une incompatibilité, et pas seulement d'humeur, quasi permanente.
Oui, Michel Rocard qui était secrétaire national du...
À ce moment-là, PS, oui. Il avait pris la suite de Fabius. Hein. Donc, on peut dire que la liste du MRG, que le MRG avait envie de présenter, hein. Moi je n'étais pas impliqué là-dedans, mais le MRG avait envie au niveau national de présenter cette liste, et il a été fortement, très fortement encouragé par François Mitterrand, qui voulait mettre Michel Rocard en difficulté. Et disons que ce coup de Jarnac, hein, car moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une analogie entre le coup de Jarnac et le coup du père François, puisque le dit père François, que nous appelions Tonton,
était né
à Jarnac, où il est d'ailleurs enterré, inhumé. Donc ce coup a réussi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, puisque comme vous le rappeliez tout à l'heure, la liste Tapi a fait plus de 12%, alors que la liste Rocard dépassait à peine les 12,5%.
14,49.
Ouais, 14,49. Et 12,5 pour 12, je ne sais plus combien.
De Villiers.
Ouais, ouais, d'accord. Donc, la liste du mouvement des radicaux de gauche a eu 12 élus. 12 élus.
13 même.
13 élus. Ouais, 13 élus. Et ensuite, on a été bien embarrassés lorsqu'il a fallu envisager de les recaser après l'élection suivante.
Voilà.
Et c'est là en particulier, sur cette liste, qu'a été élu André Saint-Jean, ancien patron de la Fédération de la Métallurgie CGT, à partir notamment des usines Renault, etc.
Oui.
Et grand ami d'enfance et de jeunesse de Bernard Tapie.
Oui, ils étaient dans le même orchestre.
C'est ça.
Ils ont continué à jouer ensemble.
C'est ça.
Voilà, donc on en restera là pour cette série d'émissions. On va continuer la semaine prochaine. Merci Jean Rigal, merci Roger Lajoie-Mazin.